Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
La grande tchatch aujourd'hui avec un invité, Lionel Royer-Perrot et Sandra Fiamma, le co-animateur de cette émission que vous retrouverez le mois prochain. Et donc on va commencer très classiquement par le portrait de l'invité. Il était une fois un comte de Perrot, mais un comte de Royer-Perrot, Perrot avec un E avant le A. Du haut de vos 43 ans, vous êtes encore un jeune en politique, à peine 3 ans de plus que le président de la République. Vous auriez même pu figurer parmi le casting des marcheurs de la start-up nation. Sauf que vous êtes à Marseille l'un des représentants parmi les mieux dotés de l'ancien monde. Votre candidat de cœur à la présidentielle, c'était François Fillon. Et loin des novices macronistes issus de la société civile, vous êtes tombé en politique comme Obélix dans sa marmite, tout petit. Étudiant en sciences...
Ça n'a pas changé d'ailleurs.
Oui, on va en parler. Alors, étudiant en sciences, enfin pas de votre taille, hein. Étudiant en sciences agronomiques et en droit public, vous faites vos classes dans le Var avec les jeunes de l'UDF. Et vous voilà rapidement attaché parlementaire de Yann Piat, la députée élue sous le label Front National, puis très vite ralliée au Parti Républicain. Celle qui, dénonçant la mafia, est morte assassinée dans des circonstances toujours débattues. Cela a été longtemps votre destin. Un homme de l'ombre, le fidèle bras droit, le numéro 2, d'abord et toujours encore aux côtés du tonitruant Guy Tessier. Pour vos 20 ans, vous devenez son assistant parlementaire. 10 années dans les coulisses de l'Assemblée nationale qui vous permettent d'assouvir votre passion pour la défense et les forces armées dans le sillage du député Tessier, l'ancien para. Le même Guy Tessier vous nomme directeur de cabinet dans sa mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille avant de faire de vous son député suppléant en 2007. Il vous choisit naturellement pour lui succéder à la mairie de secteur en 2014. Vous êtes aussi élu conseiller départemental en 2015 et là aussi c'est grâce à un prestigieux binôme, celui que vous formez avec Martine Vassal, aussitôt promue présidente après votre victoire. À la clé d'une carrière politique déjà bien remplie, le cumul des mandats dans le temps et en nombre n'est donc pas pour vous un souci. Maire de secteur, conseiller départemental, député suppléant, vice-président de la communauté urbaine, membre de la direction de LR dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes aussi président de 13 habitats, le premier bailleur social du département. De quoi prendre confiance, de quoi vous nouer des ailes et l'envie d'un grand bol d'oxygène. Oxygène Actif, c'est justement le nom du club de réflexion que vous avez lancé en décembre pour questionner le territoire métropolitain en pleine mutation. Il était donc une fois un comte de Royer-Perrot, celui du petit Lionel devenu grand. Une réaction peut-être à ce portrait ?
Écoutez, c'est assez fidèle et je vous en remercie. C'est votre ton classiquement caustique, mais c'est aussi très fidèle sur ce qu'est mon parcours de vie, mon parcours politique, mon parcours qui s'inscrit dans des fidélités. Une fidélité d'abord à Yann Piat, effectivement, qui était une femme que j'ai rejoint lorsqu'elle était députée UDF, hein, puisque...
Oui, j'ai parti le Parti Républicain.
Voilà, mais... Parti Républicain, donc c'était une des composantes de l'UDF, donc moi j'ai toujours été membre de l'UDF, et puis après, effectivement, auprès de Guy Tessier, et là c'est effectivement maintenant plus de 25 ans que nous cheminons ensemble.
Alors on va revenir sur votre parcours, évidemment, vos engagements, vos fidélités. Peut-être un mot sur Yann Piat. Il y a à nouveau un intérêt... Pour le dossier Piat, il y a deux documentaires, qui, je ne sais pas si vous avez vu celui de Christian Philibert qui est sorti sur France 3, et puis France 2 va, début mars, en diffuser un autre. On parle d'une affaire d'État. Pour vous, c'est une histoire passée ou vous continuez à réclamer finalement qu'une forme de vérité, où on revienne sur ces faits ?
Personnellement, c'est une histoire qui a marqué ma vie, évidemment. D'abord parce que j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Je commençais ma carrière professionnelle, j'étais même d'ailleurs encore étudiant en droit et en même temps attaché parlementaire. Et très sincèrement, quand vous commencez votre carrière professionnelle par l'assassinat d'un député, c'est quand même tout sauf anodin. Donc ça m'a marqué. Ça m'a permis aussi d'avoir de très grandes leçons de vie, ou en tous les cas, alors que j'étais jeune, appris assez rapidement sur la nature humaine, sur les trahisons, sur les abandons, sur bref, tout ce qui constitue la vie publique et la vie politique d'une manière générale. Et évidemment, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai été confronté à la pression médiatique très, très tôt, j'ai été confronté à une pression judiciaire aussi très tôt, et quand vous... Vous êtes associé à une affaire pénale de cette nature, ça vous apprend le fonctionnement de la justice, soit dit en passant, et puis en même temps, ça marque un homme quand même, mine de rien.
Pour vous, justice est faite ou il faut rouvrir le dossier Piat ?
Écoutez, je crois que Les coupables ont été, les coupables, en tous les cas ceux qui sont à l'origine de l'affaire, ont été condamnés. Certains sont même d'ailleurs déjà décidés depuis. Pour le reste, sur les coupables politiques, on peut effectivement encore en parler, 20 ans après.
Bon, on va venir aux dossiers locaux, mais comme toujours dans cette émission, on démarre par l'actualité nationale. On peut parler des Républicains et puis de Laurent Wauquiez et de tout ce qui se passe autour de lui en ce moment, à savoir son dérapage là-devant, enfin ce qui est souvent commenté comme un dérapage, devant les étudiants de l'école de commerce de Lyon. Votre réaction sur cette histoire ?
Écoutez, d'abord, je pense qu'il était dans une sorte d'exercice de vérité. Il était face à des étudiants. Je crois que la condition, c'était de se livrer, de se dire les choses très librement. Il a peut-être un peu trop facilement joué le jeu, semble-t-il. Voilà. Bon, après, ce qui n'est pas tout à fait normal, c'est que le contrat n'ait pas été respecté. Après, on peut pas, d'une part, reprocher aux hommes politiques leur langue de bois, et puis lorsqu'ils se lâchent réellement et qu'ils disent les choses telles qu'ils les pensent, eh bien, leur en faire le procès. Voilà. Bon, après, très sincèrement, si effectivement... chacun devait jouer le jeu qu'a joué Laurent Wauquiez dans une sorte d'exercice d'interview vérité, je pense que ça ferait vendre beaucoup de ravis.
D'accord, mais enfin quand même, alors Nicolas Sarkozy qui met ses ministres sous écoute, vous y croyez, vous, à cette hypothèse-là ? Il s'est excusé, mais c'est dit ?
Écoutez, très sincèrement, j'étais pas au Conseil des ministres, j'étais pas non plus dans les antichambres du Conseil des ministres, je n'en sais strictement rien. Je pense que il y a chez Laurent Wauquiez cette volonté un peu de casser les codes et donc d'être un peu quelquefois provocateur. Est-ce que l'homme politique par nature doit s'inscrire dans la provocation ? Ça, c'est le sujet. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Après, sur les faits, il va vous dire non, d'autres vous diront oui, mais il n'y a que ceux qui étaient autour de la table qui pourront confirmer ou infirmer la chose.
Et votre réponse à vous, parce que votre expression elle est plutôt modérée, enfin, en tout cas, au niveau de l'expression. Vous aimez pas trop les dérapages, les petites phrases.
Non, c'est pas ma façon de faire de la politique. Bon, après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y avait un contrat moral qui était passé entre lui et ses étudiants, qu'ils étaient très vraisemblablement demandeurs d'une interview un peu cash et un peu trash. Et je crois qu'il a joué au-delà des espérances ou de leurs espérances ce jeu-là. Après, je pense que quand on est chef de parti, qu'on a un destin national, je pense que c'est des exercices auxquels il faut se prêter avec modération.
À droite.
Parce que mal compris. Voilà, mal compris par le commun des mortels, parce que il y a forcément des gens qui sont à l'affût pour essayer d'affaiblir les hommes politiques que nous sommes, et que quelque part notre rôle, ça n'est pas non plus, me semble-t-il, de céder à la tentation de vouloir être dans la provocation, de répondre forcément systématiquement aux attentes qui nous sont faites ou qui nous sont proposées. Je pense que l'homme politique a un rôle à jouer dans la dignité, et donc on doit rester sur des modes d'expression relativement classique.
Laurent Wauquiez a utilisé même des formules très fortes. Par exemple, il a parlé des guignols de la République en marche. Enfin, c'est une formule que vous reprendriez, vous ?
Non, mais je pense que tout dépend de la façon dont les choses ont été conclues entre lui et les étudiants. Voilà. Si on est sur un exercice qui est un exercice pédagogique d'une école de journalisme ou d'une école de commerce, bon. Et où où on pose les bases de ce qui va être l'interview. Bon, on peut penser que la personne en question puisse dire des choses un peu plus directement, un peu plus trash. Bon, maintenant, je ne crois pas que ça serve le politique ou les politiques d'une manière générale que de vouloir singer ce que les gens ont envie d'entendre. pense que nous, les politiques, on est là pour délivrer des messages, on est là pour délivrer des idées, on est là pour mener des combats. Voilà. Et il ne faut pas céder à cette tentation du jeunisme, à cette tentation du modernisme, parce que de toute manière, quand on y cède, de toute manière, on nous en fait le procès. Donc, restons ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sommes engagés par des combats, dans des combats avec des idées. On peut ne pas les partager, mais c'est le sens de la démocratie. Et puis, en même temps, faisons ce que, je dirais, on est élu pour ce pourquoi on est élu. Voilà, et on n'est pas obligé d'être toujours dans à la recherche de l'audimat ou de la phrase qui va faire le buzz le soir. Et là, pour le coup,
ça marche.
Ça avait marché.
D'autres à droite, à l'inverse, disent ben, finalement, là, c'est un Trump à la française qui se révèle et pourquoi pas. Il faut s'adresser au peuple, il faut savoir secouer l'Amberneau.
Oui, mais les excès dans cette affaire sont de toutes parts. Voilà. Très sincèrement, est-ce que vous voyez quelque chose de commun entre Donald Trump et Laurent Wauquiez ? Excusez-moi.
Une certaine truculence, on s'en rend compte.
Oui, enfin, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Marché dans le genre, il n'était pas mauvais aussi dans l'exercice. Hein, bon. Donc, Le Pen aussi, d'ailleurs, se dit en passant. Donc, je ne crois pas que nous puissions construire le débat politique du 21e siècle sur ces stéréotypes. Voilà. Et les excès, quels qu'ils soient, quand j'entends Xavier Bertrand, parce que c'est de lui dont vous me parlez, expliquer.
Pas seulement,
mais enfin, c'est quand même. Même le dernier en date qui se soit exprimé, qui compare Laurent Wauquiez à Donald Trump, je dis arrêtons ces excès, ça n'apporte rien au débat, ça n'apporte rien, je dirais, à la compréhension de la politique par les citoyens, et au final, ce qui doit nous importer, me semble-t-il, c'est de savoir ce que nous sommes en capacité de proposer aux Françaises ou aux Français, puisque là on parle d'hommes politiques nationaux, pour les 5 ans à venir.
Alors justement, allons au fond des choses, toujours sur LR. On a l'impression qu'il y a toujours un débat interne. Donc, certains sont partis, d'autres restent. Mais quelqu'un comme Alain Juppé, par exemple, semble hésiter toujours sur son positionnement. Est-ce que la ligne, on va dire, identitaire de Laurent Wauquiez vous va ? Est-ce que vous pensez qu'un des enjeux pour la droite républicaine, c'est peut-être de reprendre pied vis-à-vis d'un électorat qui était parti vers le Front National ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour reprendre l'engage avec des électeurs qui seraient allés ailleurs ?
Alors, votre question, elle appelle à mes yeux deux éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense que les partis, dans leur mode de fonctionnement actuel, dans leur mode d'expression actuel, sont morts. Voilà, ils sont finis. Preuve en est, c'est que pour avoir un débat d'expression ou un débat d'idées, eh bien, chacun crée sa chapelle. Voilà, Valérie Pécresse crée Libre, d'autres créent d'autres mouvements. Et donc, en fait, on se rend compte que, je dirais, la structure institutionnelle que constitue le parti politique, tel qu'il a été d'ailleurs voulu par le général de Gaulle dans les institutions de la Ve, eh bien, leurs modes de fonctionnement sont essoufflés et ne correspondent plus aux attentes, justement, exprimées par les populations dans le débat politique et le débat public. Et donc, finalement, comment on recrée une démocratie ? D'aucuns parlent de démocratie participative, d'autres parlent de démocratie collaborative. Moi, je préfère parler de démocratie active. Comment on trouve le juste milieu entre, finalement, la démocratie représentative par l'élection, qui reste quand même la base de la démocratie, et puis, en même temps, l'oxygénation nécessaire dans l'interface entre deux temps électoraux. Parce que, finalement, le citoyen s'exprime au moment de l'élection, et puis après, on lui explique que pendant 5 ans, on lui demande plus trop son avis, on revient 5 ans plus tard. Et donc là, il y a une vraie attente, et je pense que les partis politiques ne sont plus armés pour ça. Après, sur les lignes politiques, bon, ben, on sent bien, à droite comme à gauche, comme dans tous les autres partis, que il y a plusieurs lignes idéologiques qui se confrontent. D'abord, la droite s'est construite entre entre les libéraux, on va dire, et les conservateurs. C'est tout sauf nouveau, hein. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs à tel point qu'il y avait l'UDF et le RPR, et que nous étions unis dans des alliances électorales, mais que jusqu'à la création de l'UMP, puis des Républicains, on a toujours cohabité, on s'est côtoyé, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, ben, on sent bien que, après avoir vécu une dizaine d'années, grosso modo, de cohabitation un peu forcée, faut bien le reconnaître, parce qu'à dire vrai, c'était pas toujours le grand amour. Eh bien, là, on revient sur des clivages plus, plus traditionnels. Voilà, alors, Laurent Wauquiez s'est présenté, il a été élu. C'est
vous l'avez soutenu
sur une ligne... Non, je faisais partie de ceux qui ont été relativement observateurs de la chose.
Par prudence, par...
Je pense que... on n'a pas eu le débat interne qui permettait de clarifier, les lignes idéologiques. Voilà. On a eu un débat sur les hommes, sur la façon de faire de la politique, mais on n'a pas eu réellement la possibilité de nous exprimer sur, la ligne idéologique. Voilà. Et ça revient d'ailleurs à ce que je vous disais dans mon propos, c'est la limite des partis politiques aujourd'hui.
Alors vous n'avez pas complètement répondu sur la question du Front National, pour prendre celle-là, qui pèse, hein, y compris sur le plan local, on le sait ô combien, même si en ce moment ce parti semble en crise. J'ai rappelé, alors effectivement, vous avez rejoint Yann Piat, elle était déjà à l'UDF, donc vous ne l'avez pas rayé, le Front National, à vos débuts, hein, ça n'a pas été dit. Guy Tessier, qui est votre maître, votre mentor, il vient de l'extrême droite, hein, il avait animé le Parti des Forces Nouvelles, donc une scission du FN pendant des années avant de...
Non, pendant un an.
il me semble que ça a duré un peu plus longtemps, mais enfin peu importe, en tout cas il vient de cette famille politique, preuve qu'on peut évoluer dans sa carrière politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui le Front National et les gens qui viennent du Front National sont des gens infréquentables, ou qu'on peut les faire évoluer, qu'il faut les faire évoluer, et que c'est le rôle du Parti Républicain d'aller chercher aussi ses électeurs et ce que semble vouloir faire Laurent Wauquiez?
D'abord, très, très sincèrement, moi, je me sens pas une âme qui vise à servir de béquille au Front National, ou qui vise à convertir les gens du Front National chez les Républicains. Hein. Bon, chacun fait ses choix. Moi, j'ai toujours fait mon choix dans une famille politique qui incarne, je dirais, la droite française, et je ne le renie pas. J'ai commencé Parti Républicain, j'étais après Démocratie Libérale, après UMP et après les Républicains, c'est-à-dire une droite conservatrice sur certains sujets de société, mais en même temps très libérale sur les aspects économiques. Bon, je pense que dans un parcours politique, dans un parcours humain tout simplement, il faut savoir évoluer. Moi-même, je pense que j'ai évolué sur un certain nombre de sujets, et l'âge aidant, l'expérience se faisant, j'ai peut-être des avis quelquefois moins tranchés que je pouvais en avoir lorsque j'étais jeune, mais je pense que ce qui est vrai pour moi l'est sans doute aussi pour vous. C'est simplement l'expérience, c'est la vie qui nous patine, qui nous permet justement d'avoir des approches différentes. Après, pour les tactiques électorales, parce que c'est de cela dont vous m'interrogez. Pas seulement, mais quand même un peu, parce que quelque part aujourd'hui, on sait tous que pour se refaire une santé politique, il faut essayer de regagner quelques élections, donc il faut avoir un peu de sens tactique. Bon, Laurent Wauquiez, lui, s'est positionné sur une droite clairement assumée. Il s'est fait élire sur ça aussi, donc ça veut dire que vous avez une base militante qui le souhaite. Il ne s'est pas non plus autoproclamé président des Républicains. Donc, il est conforme à ce qu'il a présenté. Moi, je crois très sincèrement que c'est toujours pareil. Il faut trouver le bon point d'équilibre. On n'est pas là pour singer des partis qui ne nous ressemblent pas. Je rappelle que dans les années 80, ceux qui étaient favorables à l'ouverture, c'était ces ministres François Léotard et d'autres qui nous imposaient une sorte de dialectique pour ne parler que des choses qui vont bien et ne pas utiliser les bons mots pour parler des vrais sujets. Et je pense que la droite s'est un peu perdue en essayant de trop s'arrondir. Voilà. Bon, maintenant, pour autant, est-ce qu'il faille aller de l'autre côté du balancier? Je ne le crois pas non plus. Voilà. Je pense que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons des véritables convictions. C'est ce qui fait la richesse de ce pays. On a le droit de penser ce que l'on veut, et on a le droit d'en débattre comme on veut. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est être en capacité de faire vivre cette démocratie, d'évoquer les choses. Et ça n'est pas parce que vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, que pour autant, je n'ai pas le droit de le dire. Voilà. Et ce qui est vrai pour moi, l'est pour ceux qui sont aux deux extrêmes, que ce soit d'ailleurs Mélenchon d'un côté ou Le Pen de l'autre.
Il y a quand même un souci pour LR, c'est-à-dire c'est ce positionnement de ce président qui dit en même temps être de droite et de gauche, et qui reprend pour une part aussi le fonds de commerce, le projet de société qui est celle d'une partie de la droite, en tout cas peut-être de la droite centriste. Il est libéral hein, sur, il y a
sur le
de
plan
mesures,
économique, sur le plan c'est économique, tout, ça va pas plus loin que ça quand même. Hein.
Mais enfin, c'est quand même une sacrée. C'est plus difficile peut-être de combattre un Macron qu'un Mitterrand du programme commun. Enfin, vous êtes quand même pris en tenaille entre une extrême droite qui n'est pas tout à fait...
Qui est mal en point.
Qui est mal en point, mais qui n'a pas disparu. Hein, surtout dans notre région, vous le savez.
Mais vous savez...
gauche qui n'est pas beaucoup vraiment à gauche aujourd'hui.
On est bien d'accord. Les législatives
quel espace pour les Républicains
ont montré que les socialistes, 6% dans un cas, 2% dans un autre. Donc, effectivement, ils sont très mal en point. Je vous le confirme. Par contre, nous avons gagné les élections partielles quand même. Comme quoi on n'est quand même pas si mal en point que cela. Cela étant, je crois que là aussi deux choses. La première, c'est qu'on est dans un pays où il y a deux grands courants de pensée, qu'on le veuille ou non. Et le pari de Macron, c'est d'essayer de concilier l'un et l'autre. Je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est une démarche qui... s'inscrit à court terme et ne peut pas s'inscrire à long terme. Et on le voit. Regardez les élections législatives partielles. La candidate dans le Val-d'Oise, qui est opposée donc au second tour avec un candidat républicain, que fait-elle dès le soir du premier tour? Elle appelle les électeurs de gauche à voter pour elle. Sauf que les électeurs de gauche, ils n'ont quand même pas oublié les premières mesures qui ont été prises par Macron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous restés à la maison au second tour. Et la candidate En Marche, qui avait été élue à 54% au mois de juin, elle est battue au mois de janvier. Et ça va être toute la limite de l'exercice de Macron. C'est-à-dire que dès lors qu'il sera opposé à un candidat républicain, il n'aura plus de marge de manœuvre. Parce que il n'est pas clairement un candidat. Il ne s'inscrit pas dans la pensée de gauche. Il ne l'a jamais été. De toute manière, en ayant été en siégeant au conseil d'administration de la Banque Rothschild, c'est quand même très compliqué d'être quand même de gauche. Et de l'autre côté, à droite, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? C'est justement cette base militante. Parce que nous, peut-être qu'on est mal en point. Je vous le concède dans certains aspects. Mais la réalité, c'est que nous avons une base militante, ce qui est nécessaire pour mener les combats politiques. Et c'est bien le problème d'ailleurs d'Emmanuel Macron à Marseille comme dans d'autres communes. C'est que, bon, ils ont des idées, ils ont quelques députés, mais ils ont des gains derrière. Hein. Voilà, et c'est bien son problème. Et donc, je dis que, quelque part, sa stratégie du « et droite et gauche », à un moment donné, ça va se heurter à la réalité de ce que sont nos courants de pensée politique dans ce pays.
Alors on va s'approcher, hein. Dernière question un peu nationale et même européenne avant de s'approcher du territoire. Il y a quand même un piège pour LR que vous tend Macron. Hein. Il veut récidiver un petit peu son coup de poker de la présidentielle, c'est les européennes. Avec une position très claire, il est pro-européen.
Ben, ça tombe bien, moi aussi.
Ah oui, mais par contre, au niveau de LR et de la ligne Bouquier, à nouveau, on sent peut-être une aspiration souverainiste.
Mais attendez, mais c'est tout sauf nouveau.
Remise en cause de Bruxelles.
On a eu des listes avec Pasqua Seguin de Villiers. Et on a eu des listes avec Alliot-Marie et d'autres à l'époque. Mais enfin, c'est tout sauf nouveau. Vous avez deux droites dans ce pays, comme vous avez deux à trois gauches et comme vous avez maintenant deux Front National. Bon, enfin, je veux dire, c'est tout sauf nouveau. Simplement, vous voulez vous obstiner à laisser croire que la droite est divisée. Mais la droite, elle n'est pas plus ni moins divisée qu'il y a 20 ans. Voilà. Par période, vous avez regardé à l'époque où De Villiers, Seguin et Pasqua avaient fait leur liste. Bon, ben, ils avaient engagé, je ne sais plus combien de députés, engrangé, je ne sais plus combien de députés à l'époque. Voilà. Et à côté de ça, vous aviez une liste plus traditionnelle, tenant de l'Europe que prenait Simone Veil ou d'autres grands leaders européens, français. Bon, donc, franchement, je crois que. Si en 2018 on n'est pas capable, vous les journalistes, nous, non, on est en 2018 encore.
Ah oui, non, je parlais des Européens.
Non, mais enfin bon, 2018-2019, enfin 21e siècle, allez, pour vous faire plaisir. Si vous, les journalistes, et nous, les politiques, on n'est pas capable de régénérer le débat politique, et si on passe notre vie à reposer les mêmes questions qu'on se pose entre nous depuis 20 ans, parce que vous nous faites le procès quelquefois d'être un peu des ringards, mais excusez-moi du peu, mais les journalistes, c'est pas mieux quelquefois.
Hein. Ah, très critiqué, profession très critiquée, effectivement.
Oh, rassurez-vous, nous aussi, les politiques, c'est du matin au soir.
D'accord, vous êtes optimiste alors entre l'euroscepticisme affiché du Front National, pour pas dire plus, et l'europhilie de En Marche. Vous pensez que les Républicains vont tirer leur épingle du jeu?
Il faut une démarche qui soit pragmatique. Emmanuel Macron est très volontariste sur le sujet, mais enfin, excusez-moi du peu. Aujourd'hui, il a quand même un allié allemand, enfin une alliée allemande qui est en ce moment à la peine, qui n'est absolument pas d'ailleurs forcément sur la démarche aussi intégrée de l'Europe telle que il la voudrait. Et puis la réalité quand même, c'est que vous avez un certain nombre de pays de l'Est qui veulent bien l'Europe pour ce qu'elle apporte en termes de subsides, mais qui quand même se placent assez confortablement sous le parapluie de l'OTAN pour tout ce qui concerne la défense. Donc on est quand même très loin de l'image sublimée ou de la volonté sublimée que Macron, que le président de la République veut défendre sur l'Europe. Maintenant, il a raison, il faut être en capacité de porter des visions. Il en a une, nous en avons d'autres, et je pense que ce sont les électeurs qui trancheront. Mais très sincèrement, si l'idée, c'est de porter la vision d'Emmanuel Macron avec Alain Juppé, 75 ans au compteur, on en reparlera.
D'accord. Emmanuel Macron toujours un projet, une volonté politique pour le territoire, hein, qui nous occupe, qui nous préoccupe, celle où vous siégez, au conseil départemental notamment, celui de la fusion entre le département et la métropole, horizon 2021. Et avec un fait nouveau, hein, Jean-Claude Gaudin, qui préside cette métropole, qui ne s'oppose plus à cette perspective, par pragmatisme en partie. Et il parle même d'une querelle des anciens et des modernes. Est-ce que vous êtes sur cette ligne aussi, en disant, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur à faire, mais enfin, bon, voilà, ça va se faire, il faut le faire, il faut s'y préparer. Et pourquoi pas, après tout, cette grande fusion et ce grand territoire de Marseille jusqu'à Arles.
Est-ce que être pragmatique, c'est être fataliste? C'est une question. Moi, d'abord, je pense qu'il y a une grande incompréhension sur ce sujet. Une métropole, pour moi, c'est un objet que l'on voit depuis Shanghai. Voilà. Une métropole, c'est un territoire qui existe de par sa taille, de par sa capacité à rayonner. Or, le grand travestissement, finalement, du débat métropolitain lorsqu'on a créé la métropole imposée par le gouvernement de François Hollande, ça a été d'appeler une métropole ce qui est une sorte de département croupion, pour dire les choses. C'est un département amputé d'un tiers. Voilà. Et on appelle ça une métropole. Moi, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Bon. Maintenant, cette métropole, elle est créée, elle a été créée par des fonctionnaires, pour des fonctionnaires, et elle fonctionne quasiment qu'avec des fonctionnaires. Voilà, c'est mon approche. On donne l'illusion que les politiques décident, ils ne décident de rien. Ou de pas grand-chose. Aujourd'hui, on nous dit, il faut fusionner pour réduire le millefeuille, tout ça. Bon, très bien, face à ça, personne ne vous dira qu'il est contre. Hein. Voilà, donc, mais dans ces cas-là, on est d'accord que si on fait la métropole qui fusionne avec le département, on se répartit bien sur les compétences, on essaie de faire en sorte que les compétences de proximité, on les rapproche réellement de ceux qui sont à la proximité, c'est-à-dire les maires. Parce qu'aujourd'hui, pour un potelet, il faut quasiment écrire au président de la métropole. C'est pas facile, c'est pas ce qui nous facilite la tâche, premièrement. Deuxième élément, ce qu'il faut, c'est bien évidemment faire en sorte que les nombres d'élus se réduisent. Si c'est faire une métropole où on additionne le nombre des élus métropolitains et le nombre des conseillers départementaux, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il faut faire en sorte que ce soit une institution qui soit réellement représentative du territoire. Voilà. Et donc le mode de scrutin est aussi un vrai sujet. Voilà. Maintenant, je trouve que, très sincèrement, avoir créé une métropole pour nous expliquer que maintenant il faut fusionner avec un département pour que ça devienne une métropole département. Mais dans ces, franchement, il y a 3 ans, il aurait mieux valu nous dire qu'on transférait les compétences directement au département et on se serait évité le scénario et le cinéma de ces 3 dernières années, franchement.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Vous l'avez évoqué, mais il y a aussi une hypothèse d'un changement de scrutin, c'est-à-dire d'un suffrage direct pour élire les élus de cette nouvelle grande métropole, département, etc. Ça, c'est bien. Ça permettrait de mettre un peu de concret, de démocratie dans quelque chose que vous avez décrit comme très technocratique jusqu'à présent.
Oui.
Alors c'est un piège, parce qu'on parle aussi de calcul pour les marcheurs qui pourraient trouver moyen à s'inscrire localement, à trouver des relais locaux qui leur manquent.
Oui, bon, je crois que c'est un secret pour personne. Je pense qu'effectivement, ils ont besoin de rentrer dans les collectivités, ils ne connaissent pas les dossiers, ils ne sont pas sur le terrain, moi, dans mon territoire, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils font, je sais pas, ils ne proposent rien, ils assistent à rien. Bon, alors il faut dire qu'on a la chance, justement, avec Guy Tessier, d'avoir battu une candidate MoDem alliée En Marche. Donc, effectivement, ils ont peut-être encore moins d'ancrage qu'ailleurs, mais je crois savoir que même là où ils sont députés, on ne les voit pas beaucoup.
Grâce à un bon report des électeurs du Front National entre les deux tours.
Grâce à...
Vous aviez fait ce commentaire dans la presse.
Grâce à la mobilisation des électeurs pour faire en sorte que le député qui les représente soit un député de terrain qui connaisse leur... problématique. Voilà, écoutez, on ne regarde pas qui vote et excusez-moi, il n'y a pas de sous-électeurs, il n'y a pas de sous-citoyens. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, je suis favorable à inscrire. Il semblerait que le président de la République veuille faire élire les députés la prochaine fois avec des députés élus sur des territoires en circonscription, donc avec le scrutin majoritaire, et puis des députés élus à la proportionnelle. Eh bien, si c'est quelque chose que le président de la République veut instituer au niveau national et qui devienne une sorte, je dirais, de scrutin électoral ou de règle électorale qui a sa préférence, je préconise qu'il en fasse de même pour la métropole. C'est-à-dire que, puisqu'on va fusionner département à métropole, vous avez des conseillers départementaux qui représentent des territoires, qui sont un ancrage sur le territoire. Bien, je pense qu'il faut conserver l'idée du canton et avoir une prime majoritaire à un scrutin de liste. Voilà. Ce qui permet du coup, d'une part, de faire rentrer tous ceux qui participent au débat démocratique, d'une part, et en même temps, ça vous permet de dégager un fait majoritaire et donc de vous établir une majorité pour gouverner pendant 6 ans. Voilà. Donc, je dis au président, enfin, à mon avis, il va m'écouter. Mais,
sait-on jamais.
Mais,
Macron,
mais voilà, mais disons que je dis aux députés En Marche, s'ils nous écoutent, c'est peut-être déjà un peu plus probable que. Allez jusqu'au bout de votre logique, puisque vous voulez modifier le scrutin des législatives, faites en sorte que le scrutin des législatives soit calqué sur le scrutin des métropoles.
Alors une majorité, ça fait pas tout, parce que quand on a vu la victoire de Martine Vassal au département, on s'est dit, ça y est, voilà, il y a au moins une cohérence politique, la ville centrale Marseille, LR, la communauté urbaine, LR, la métropole, LR, et pourtant, quel pataquès, je pense évidemment à Marie Joissin et à ses déclarations sur « je ne veux pas rejoindre les mafieux marseillais », etc. Enfin, la volonté d'un certain nombre d'élus du Pays d'Aix de créer une métropole aixoise pour...
écoutez, là aussi, c'est tout sauf nouveau, sauf que...
Oui, mais le changement de majorité politique n'a rien, semble-t-il, changé
Sauf que Maryse Joissin, elle est dans la métropole, et que la métropole est très généreuse à l'égard de son territoire. Franchement, bon, une fois que vous avez dit que vous êtes contre la métropole, une fois que vous avez, à chaque conseil, exprimé toutes les réticences qui sont les vôtres, la réalité, c'est qu'elle est dans la métropole. Voilà, et qu'à ma connaissance, il n'y a aucune loi qui prévoit qu'elle en sorte. Voilà, donc, elle fait de l'électoralisme, elle essaie d'expliquer à ses électeurs aux ex-sois, qu'elle les défend. Très bien, elle les défend plutôt d'ailleurs bien, je pense que c'est que Maryse Joissin est un très bon maire d'ailleurs. À côté de ça, la réalité, c'est que le combat, elle l'a perdu, et qu'elle est dans la métropole.
on en sortira un jour de ce schéma de Marseille, la ville pauvre, là, le fardeau, entouré de, finalement de richesses, de dynamisme et avec une méfiance comme ça des territoires qui se regardent.
Bon, d'abord, c'est une réalité. Franchement, que la ville soit pauvre, qu'elle soit structurellement pauvre, que c'est une ville portuaire, que donc il y a un brassage social très important, c'est une réalité. Je pense que toutes les politiques que l'on pourra mener ne gommeront en aucune manière ce qui est, je dirais, la spécificité de cette ville qui n'est pas un paradoxe près. Donc il faut arrêter d'imaginer que Marseille puisse un jour se standardiser. Voilà. Et je pense de toute façon qu'elle n'a aucun intérêt à l'être. Voilà. Après, on aime beaucoup accabler Marseille. N'empêche, on est quand même bien content que Marseille absorbe ce que d'autres ne veulent pas sur leur territoire.
Alors Marseille avec des débats et des dossiers qui font débattre. Et je pense à Renaud Muselier. J'avais oublié la région. Tiens, LR aussi, effectivement. Pas forcément très facile de faire cohabiter tout ce monde. Qui a envoyé
très sincèrement, une fois que vous avez enlevé les phrases diverses et variées qui permettent justement aux journalistes d'occuper leur temps, la région, elle est de la ville, le département, il est de la ville.
Alors oui, mais
très sincèrement, ça permet justement de booster des projets qui sont importants pour le développement de cette ville, parce que si nous avions eu la même aide que par le passé, que Martine Vassal accorde par exemple au département ces 20 dernières années, eh bien peut-être que on aurait évité les retards pris dans certains domaines. Voilà, sauf que je me permets de vous rappeler quand même que la grande stratégie de Jean-Noël Guérini, c'était d'assécher Marseille pour mieux l'accueillir électoralement parlant.
Bon, voilà. D'accord. Venons sur le fond, deux choses pointées par Renaud Muselier, on peut ne pas, et vous allez nous expliquer, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais enfin, très clairement, il dit Gaudin a fait deux mandats de trop. Alors, le mandat précédent était un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. Il envoie du lourd. Et le deuxième mandat, celui-là, ne sert à rien. Ça fait deux mandats pour rien. Et sur le deuxième mandat, il dit « Je déteste l'immobilisme. C'est un choix politique de gestion, d'administration. Ce n'est pas le mien. L'immobilisme. » C'est pas un gauchiste, hein, c'est Renaud Muselier, l'ancien premier adjoint de...
C'est
il
Renaud.
Est dans votre, c'est Renaud, dans votre mouvement voilà. politique.
C'est Renaud, c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Voilà, donc c'est Renaud. Bon, après, très sincèrement, bon, moi je...
C'est faux l'immobilisme de...
Je crois qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que qui peut croire que cette ville est immobile quand on voit combien elle se développe, et il suffit quand même de se promener dans cette ville, d'ouvrir les yeux pour voir que ce qui était Marseille il y a 20 ans et ce qu'elle est devenue, il y a quand même eu une évolution, et heureusement d'ailleurs. Après, il y a, je dirais, un mode de gestion, un mode de gestion de ce qui est le quotidien, qui effectivement n'a pas beaucoup changé, mais je pense que ça ne sert à rien de faire le procès de ce qui a été une époque. Parce que quand on est au 21e siècle, on ne fait pas le procès du 19e, parce qu'au 19e, bah, écoutez, c'était d'autres temps, d'autres mœurs. Voilà. Et là, par contre, je pense qu'on doit se dire, on est à l'interface entre deux mondes. Le 20e siècle est mort, les idéologies sont affaiblies, la façon de faire de la politique dans cette ville faite d'un mélange de clientélisme, d'accords divers et variés, tout ça, bon, tout ça, à mon sens, c'est terminé. Si je vous le dis, ça ne sera pas un scoop, vous me l'avez déjà entendu dire, ou peut-être que vous l'avez lu quelque part. Donc, simplement maintenant, notre rôle à nous, les générations qui sommes en responsabilité, c'est de construire différemment, autrement, et de le faire comprendre. Parce que vous savez, le Marseillais est quelquefois un peu paradoxal. Il critique beaucoup, il explique aussi beaucoup qu'il faut changer, et puis quand il faut changer, c'est les mêmes quelquefois qui nous expliquent qu'il faut rester un peu sur ce qui se faisait auparavant. Donc c'est pas toujours simple.
Lionel Royat-Perrault, je vous sens très très prudent, quand même très légitimiste aussi, pourquoi pas, vis-à-vis de Jean-Claude Gaudin, mais je vais citer un autre Marseillais, un Guy Tessier, qui c'est pas rien non plus, hein. C'est pas vous qui allez me dire que c'est rien. Effectivement, ça remonte à quelques années, vous me voyez venir, j'imagine.
Je pense même que c'est moi qui avais écrit les éléments de langage.
Alors peut-être, mais alors rappelons-les, hein. Donc c'est Guy Tessier qui s'exprime dans Valeurs Actuelles, hein, c'est pendant l'humanité, c'est dans Valeurs Actuelles. Il dit tout dysfonctionne dans cette ville à Marseille.
C'est la liberté de la presse. Hein. Hein. L'humanité n'a pas plus de valeur que Valeurs Actuelles.
Tout à fait, donc ouais. On le cite, il n'y a pas de souci. Donc dans Valeurs Actuelles, on pouvait lire en 2013 de Guy Tessier, tout dysfonctionne dans cette ville. On assiste malheureusement à la fin du règne de Jean-Claude Gaudin, qui n'a jamais été un homme d'entreprise. Il est assis dans son fauteuil et ne veut pas en bouger. La seule force qui le meut, c'est sa volonté de se maintenir au pouvoir. Waouh ! C'était en 2013, c'est, ça a changé. Le mandat de trop. C'est difficile.
Non, franchement, je crois que je le redis. Il y a une vision de développement de cette ville et très sincèrement, quand on voit ce qui se passe sur le port, le développement du port, quand on voit ce qui se passe en termes de développement économique, avec par exemple hier, pas plus tard qu'hier, l'inauguration du MIF 68. Bon, tout ça montre que ça n'est pas un mandat pour rien. Franchement, ça serait de mauvaise foi que de le dire. Voilà. Simplement, je pense, et Jean-Claude Gaudin l'assume, donc il n'y a pas de raison d'être Jean-Claude Gaudin, s'inscrit dans une gestion de cette ville qui est son histoire, et il a toujours dit qu'il, en quelque sorte, il s'inscrivait dans les pas de Gaston Defferre quelque part, et il l'a assumé, et ça lui a, ça l'a pas empêché de se faire réélire 4 fois. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, rien dit. La réalité maintenant, c'est de savoir comment on bascule dans un nouveau monde, justement, et comment on fait de la politique autrement. Et je fais partie de ceux qui, s'y emploient, ça ne vous aura pas échappé.
D'accord. Oublions Gaudin. Est-ce que malgré tout, vous pointez, comme Guy Tessier le faisait il y a quelques années, il le fait parfois encore, oui. Des lourdeurs, pour ne pas ne parler de plus, une forme, alors on parle d'un héritage de Ferris dont on n'aurait pas encore soldé le passé à Marseille complètement. Est-ce que vous pensez qu'on parlait tout à l'heure de ces grands changements institutionnels, fusions, etc. Vous parlez d'une nouvelle génération. Est-ce que vous pensez qu'on va peut-être, il faudrait peut-être faire différemment, sans forcément.
Incontestablement. Alors, mais incontestablement.
Sur quel point?
Notamment la manière de faire de la politique autrement, la manière de gérer un certain nombre de politiques de proximité dans une décentralisation qui soit plus assumée à l'échelle des mairies d'arrondissement, parce qu'effectivement aujourd'hui l'échelle de proximité il se joue à ce niveau-là, et que donc nous avons effectivement tout un travail à réaliser dans ce sens-là. Et très sincèrement, ce que disait Guy Tessier, peut-être avait-il raison trop tôt, mais ce qu'il disait il y a une dizaine d'années, c'est d'une cruelle actualité aujourd'hui, mais ça moi j'en suis le premier à le dire et à le redire. Jean-Claude Gaudin a sa propre histoire, a sa propre vision des choses. Il s'est fait élire et réélire, ce qui l'a sans doute aussi conforté dans ce qui était son approche de la façon de faire de la politique. Bon, mais maintenant, Jean-Claude Gaudin a aussi indiqué qu'il ne serait pas candidat en 2020, donc qu'il ça, c'est son dernier mandat. Et donc maintenant, c'est à nous, d'expliquer, d'inventer la façon de faire autrement pour rendre cette ville quelquefois plus propre, quelquefois moins anarchique. Enfin bon, il y a des choses à faire, même si tout n'est pas quand même de la responsabilité du maire sortant.
Alors, vous craignez pas une fin de mandat un peu pénible? Il y a eu une perquisition de 20 gendarmes du parquet national financier à la direction générale du personnel. C'était il y a peu de temps. C'est autour de l'affaire du SAMU social. La ville a porté, d'ailleurs, c'est porté partie civile, donc a porté plainte. Mais semble-t-il, le parquet national financier s'interroge sur la façon dont est géré le temps de travail des fonctionnaires en mairie de Marseille, avec des heures qui ne seraient pas comptabilisées, et des pratiques comme ça, qui seraient figées dans le temps et qui amèneraient la ville à faire des choses qui ne seraient pas légales. Est-ce que vous croyez qu'il faudrait mettre un peu d'ordre aussi dans ces pratiques pour que Marseille aille de l'avant?
Alors d'abord, les législations changent beaucoup. Ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui, ce qui, bien sûr, amène les collectivités à devoir, bien évidemment, s'adapter. Je dirais que dans une ville comme Marseille, avec quasiment 13 000 ou 12 000 fonctionnaires municipaux, c'est sûr que ce type de réformes ne sont jamais simples à mener. Ce qui est vrai aussi, mais Jean-Claude Godin l'a toujours assumé, c'est qu'il s'est inscrit dans une sorte de cogestion avec Force ouvrière. Bon, je pense que, très sincèrement, et là je suis tout à fait en phase avec Itessier depuis bien longtemps, on est arrivé, je dirais, à la limite de l'exercice. Voilà. Après, ça serait faux aussi de vouloir réduire ce débat-là à la seule commune de Marseille. Je pense que nous, il y avait une cogestion peut-être avec FO. Certaines communes cogèrent beaucoup avec la CGT, si vous voyez ce que je veux dire.
D'accord. On parlait tout à l'heure de cohabitation. Enfin, c'était plutôt Renaud Muselier qui rappelait, enfin, qui dénonçait une cohabitation politico-mafieuse avec Guérini. Et vous êtes à un endroit oui. qui a été symptomatique, hein, je pense, très habiteur, et qui a été... souvent dénoncé comme le temple du clientélisme, on va le dire comme ça, hein, sous le mandat Guérini. Ça y est, vous avez repris en main la maison.
Reprise en main, je l'ai reprise en main. Vous dire que tout est... que tout ce qui se faisait par le passé a disparu, je n'irai pas jusque-là. Voilà, je pense qu'il y a encore du travail, mais j'ai été élu pour 6 ans et j'en ai encore pour 3 ans.
Vous avez pris vos fonctions en 2015, hein, c'est ça? Ah,
donc c'est ça, jusqu'en 2021. Bon, on réforme, hein, puisque j'ai fait voter le plan Ambition 2020, qui a pour but justement de conduire vers la spécialisation des métiers, de massifier les agences pour permettre justement de réorganiser, je dirais, les fonctions support. Bon, tout ça prend du temps, et puis c'est vrai que bon, je suis pas non plus dans une chasse aux sorcières, hein, je suis pas rentré dans la logique qui est de dire bon ben voilà, vous étiez là du temps de Guérini, donc vous partez. Donc je l'ai fait sur certains aspects parce que c'était nécessaire de le faire, et donc bien évidemment je suis obligé de composer avec toute une série d'éléments. Ceci dit, nous sommes sur la bonne voie, nous essayons, enfin les attributions se font de manière beaucoup plus transparente. Il y a encore un petit peu de chemin à faire pour parfaire totalement le processus, mais je m'y emploie. Et puis pour le reste, bah écoutez, on investit sur les territoires. C'est quand même 1,5 milliard que nous avons voté pour, d'une part, construire du logement social neuf à l'échelle du département. Et nous sommes pour cela puissamment aidés par le conseil départemental. Et puis en même temps, je m'inscris dans une politique ambitieuse de réhabilitation, parce qu'on hérite aussi de cités qui ont été construites pour certaines d'entre elles il y a plus de 80 ou 90 ans, à l'époque où la maîtrise des dépenses d'énergie, c'était pas franchement le sujet de préoccupation. Et donc là, il y a tout un travail à faire. Mais par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de le faire de manière équitablement. Il ne peut pas y avoir des territoires qui ont tout parce que le conseiller départemental avait l'onction du président du département de l'époque et d'autres territoires qui n'avaient rien. Voilà, il faut faire les choses justes. Les gens n'ont pas choisi d'habiter par rapport à la couleur politique de leur maire. Ils habitent dans une commune parce que pour l'histoire qui est la leur, et ils n'ont pas à être les victimes collatérales des problèmes politiques des uns et des autres.
Et inversement, quel regard vous portez sur ces communes du département, je pense à Allo par exemple, qui sont connues pour ne pas apprécier le logement social et vouloir rester finalement...
Bon, d'abord,
pas trop aimer l'hétérogénéité des publics sur leur territoire, voilà, c'est très résidentiel, ils veulent que ça le reste. Est-ce que là, pour vous, il faudrait mieux répartir aussi
Le sujet, en fait, est compliqué parce que les réalités de territoire sont diverses. Je crois que c'est vrai que, pour être franc, les populations ont toujours peur du logement social, quelque part. Ça véhicule plein de choses. Et quand un maire arrive pour présenter un projet de logement social, il est rarement accueilli les bras ouverts. Bien. La réalité, c'est que nous avons, à l'échelle de la métropole, en 2017, 72 000 demandes de logements sociaux. 72 000 demandes. Donc, c'est une réalité, il y a un besoin, donc il faut produire. Voilà, mais il faut le produire intelligemment. Voilà. Et là aussi, l'État prend le problème à l'envers. Au lieu d'accompagner les maires, au lieu d'être dans une fiscalité incitative, on est dans une démarche qui impose aux maires les choses.
On n'est pas la loi SRU qui impose un certain pourcentage de logement social par commune. Vous pensez que c'est trop
Mais on en arrive à des aberrations.
Autoritaire.
On en arrive. on en arrive à des aberrations. Voilà, on se retrouve avec des territoires parce qu'on empile les lois. Alors, l'autre jour, j'étais à Tarascon, ils ont d'un côté le plan de prévention du risque inondation. De l'autre côté, ils ont des espaces naturels. De l'autre côté, ils ont la loi qui leur dit qu'il faut faire 25% de logements sociaux. Et au final, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et ils ont la menace de la sanction qui pèse sur eux. Bon, le problème, c'est que le législateur fait des lois à n'en plus finir, on les empile et il n'y a même plus d'hiérarchie. Donc on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire et on en arrive à des aberrations où, dans des communes où il n'y a pas forcément une activité économique, eh bien, on a trop de logements sociaux. Je vous donne un autre exemple, Port-Saint-Louis-du-Rhône, le maire précédent. Lui, il était dans la démarche de construire beaucoup de logements sociaux pour essayer de se garantir une clientèle électorale. Bon, il a fait beaucoup de logements sociaux neufs, il y en avait déjà beaucoup d'anciens. Résultat des courses pour Saint-Louis-du-Rhône, bon, le maire actuel essaie de développer, enfin, pour Saint-Louis-du-Rhône, reste pour Saint-Louis-du-Rhône, c'est au bout du département. Bon, eh bien moi, lorsque j'ai des appartements qui se libèrent, j'ai énormément de mal à trouver des gens qui veulent bien aller habiter pour Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, c'est une réalité. Donc, faire du logement social là où il n'y a pas d'activité économique, là où il n'y a pas de transport, là où il n'y a pas de voie pour, de desserte, ça n'a pas de sens. C'est comme faire du logement social au fin fond du Cantal. 25% de logements sociaux au fin fond du Cantal quand la seule activité, c'est l'agriculture. Je dis qu'on prend les choses à l'envers et on fait des erreurs et on commet des erreurs. Voilà. Après, bon, écoutez, de toute manière, la loi est ainsi faite et donc on est là pour l'appliquer.
Le maire des 9-10 ne dit pas qu'il faut plus de logements sociaux pour désenclaver les quartiers nord où on les a trop concentrés. Enfin, où est-ce que vous seriez prêt dans votre mairie de secteur de construire plus de logements sociaux?
Mais j'en fais déjà, monsieur, et même en tant que président de 13 Habitat, justement pour donner l'exemple. Pour éviter justement les procès d'intention mal placés, j'en développe. Je suis aujourd'hui... 9,
quitte 10, à froisser, 9, à faire un peu peur à vos électeurs,
9, 9,
à assumer
oui, mais,
une part mais, d'impopularité sur ce terrain-là.
Bah d'abord, les approches d'une grande ville sont un peu différentes. Voilà, c'est un peu différent. Bon, moi, j'ai 132 000 habitants et mon territoire, c'est en superficie la moitié de Paris. Donc, bon, l'approche, elle est nécessairement différente que lorsque vous êtes maire de Carillerouet, par nature. Pour autant, je reçois mes administrés, et mes administrés, je vois bien qu'ils sont en souffrance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui demandent, qui éprouvent des difficultés à trouver du logement, ce sont les travailleurs pauvres. Aujourd'hui, les gens travaillent et n'arrivent pas à se loger. Les personnes retraitées, et notamment lorsque vous avez le décès d'un des conjoints. Voilà, on a tout de suite une baisse de revenus et les gens n'y arrivent plus. Et je me vois arriver des personnes dans mes permanences qui ont 70, 80 ans, qui ont eu un parcours résidentiel dans le privé durant toute leur vie et qui viennent à 80 ans me demander un logement social. Ce qui est quand même pas non plus le signe d'une bonne santé de notre pays. Voilà. Et ces publics-là, on n'arrive pas à les loger. Parce que les logements sociaux qui ont été construits dans les années 80, 90 ou plus tard sont des grands logements. Et on est en manque de petits logements, de petites structures. Donc, il y a un travail à faire. Et je pense d'ailleurs aussi qu'on doit expérimenter des expériences d'habitat partagé, voilà, entre différents publics, personnes âgées, personnes jeunes, on est sur de l'intergénérationnel, mais des personnes handicapées et des personnes valides, pour qu'il y ait cette entraide sociale qui se crée. Voilà, je pense que l'habitat social, c'est pas simplement que de proposer un logement, et puis après les gens font leur vie. Je pense qu'il faut aussi travailler au lien social entre les gens.
Cette fibre sociale, donc, elle est un peu inattendue, ou alors vous allez nous dire que vous avez toujours été sur ce registre-là.
C'est parce que vous ne m'aviez jamais rencontré jusqu'à ce jour.
Identifié, on vous a même vu partir au combat contre une réforme Macron, celle de la baisse des allocations logement,
oui,
que vous trouviez mal faite.
Ah mais totalement. Mmh. Ah mais totalement, mais je pense que Macron prend le problème à l'envers. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les bailleurs sociaux qu'il faut pénaliser. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'arrive pas, enfin, veut faire des économies sur le budget de l'État. Donc, grosso modo, 1,5 milliard. Il faut qu'il trouve 1,5 milliard.
Ça, c'est votre budget que vous défendez. Mais est-ce que le principe des allocations logement et de ne pas les baisser, enfin, vous pensez que c'était utile, enfin, il ne fallait pas faire des économies sur ce registre-là, sur le fond?
Mais je pense que c'est une vision comptable et financière qu'il a. Comme d'ailleurs tous les problèmes de la façon dont il les traite. Le sujet...
C'est presque du Mélenchon, ça, ce que vous nous dites.
C'est du bon sens. ça peut arriver à Mélenchon d'être dans du bon sens, c'est rare, hein, ceci dit, mais ça peut arriver. Et donc, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, il affaiblit les bailleurs sociaux. Comment voulez-vous ? Moi, pour produire, je produis grosso modo 700 logements sociaux par an. Ça me coûte grosso modo par an 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. Aujourd'hui, les mesures Macron, ça m'ampute 10 millions d'euros par an. Donc ça veut dire que je ne vais produire que pour 65 millions d'euros. Et donc, d'un côté, vous avez Emmanuel Macron qui fait des grandes déclarations en disant il faut 44 000 logements très sociaux à l'échelle du pays. Et de l'autre côté, il nous ampute la capacité à financer ces logements sociaux. Avouez que c'est quand même relativement incohérent. C'est incohérent. Et je pense que c'est incohérent parce qu'il ne connaît pas le sujet.
On approche du terme de l'émission, on a encore 5 minutes, et oui, ça passe très vite. Il met beaucoup de questions, et pourtant, ce n'est pas encore l'heure de voter au municipal de la succession de Jean-Claude Gaudin. Est-ce que par hasard, les journalistes sont comme ça, ils voient toujours la création de votre club Oxygène Actif serait une façon de vous positionner dans ce débat politique pour les municipales ? Est-ce que vous auriez des ambitions
C'est une occasion de m'oxygéner, parce que je vais vous faire une confidence, j'étouffe de voir que il y a plus de débat d'idées, que tout tourne autour de des petites déclarations des uns des autres. Bon, on est quand même dans le pays de Descartes, on est dans le pays des philosophes. Bon, et nous, on passe notre vie à commenter le sexe des anges. Excusez-moi, je suis un peu trivial, mais enfin, au final, c'est un peu ça. Bon, et on ne sait plus, on ne se repose plus les questions, on ne sait plus où on veut aller, on nous impose des prêts-à-penser. Bon, écoutez, voilà. Alors, si on veut faire de la politique comme on en a fait pendant 70 ans depuis l'après-guerre, eh bien, écoutez, il faut le dire dans ces cas-là, mais pour ce qui me concerne, je ne me reconnais plus là-dedans.
Alors, vous dites que vous voulez faire de la politique autrement, en même temps, alors, il s'est passé quelque chose. Dominique Tian a été lourdement condamné en première instance pour blanchiment de fraude fiscale. Dominique Tian, c'est le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin, déclaration mensongère de patrimoine, etc. Un an de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité, c'est assez lourd, une amende de 1,45 million d'euros. Partout en France, dans ces cas de figure-là, il fait appel, donc de droit, il n'est pas condamné. Mais partout en France, il y a une espèce de jurisprudence, un petit peu dans la nouvelle façon de pratiquer la politique au niveau de l'État, mais même à d'autres échelons, y compris locaux. Quand un élu est condamné à quelque chose d'aussi important, il se retire pour ne serait-ce qu'organiser sa défense. Et là, vous dites, comme pratiquement tous les élus, là, vous ne vous distinguez pas, locaux, LR, non, il n'y a pas de souci. Donc la politique autrement, ce n'est pas ça. Apparemment,
d'abord, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas en situation de décider du destin des uns et des autres quand même.
Non, ça mais nous c'est une histoire de échappé. Principe, voilà. Je ne parle pas du fond de l'affaire.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce que je constate finalement dans l'analyse qu'on doit en faire, c'est que les hommes restent des hommes, parce que ce qui est vrai pour les politiques le sont aussi pour des journalistes qui quelquefois sont condamnés et qui attendent d'être réellement condamnés par la Cour d'appel ou la Cour de cassation pour en tirer les conclusions. Donc finalement, vous voyez, que l'on soit politique, journaliste ou autre, on reste des hommes.
Vous dites c'est pas grave, ça ne détériore pas l'image du personnel
politique. Non, mais je pense que on peut avoir une approche autre, évidemment, mais très sincèrement, vous me posez une question qui renvoie à la conscience des hommes. Voilà, cette question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Excusez-moi. Voilà, je suis pas le maire de Marseille, je suis pas le premier adjoint. Ça fait partie de ces choses qui se traitent entre eux et chacun les prend en responsabilité. Voilà. Bon, maintenant, moi, il m'importe d'essayer de contribuer. Très humblement, je vous rassure, je sais ce que je suis et je n'ai pas, la prétention d'être à une autre place qui est la mienne. Mais je dis simplement que nous devons, c'est impérieux, de nous régénérer et d'avoir une approche différente des choses.
Une dernière question très courte pour conclure. Oui. On a démarré le portrait comme ça. Vous ne vous voyez pas en numéro 1. Vous avez grandi politiquement, on l'a dit. Pourquoi pas numéro 1
Bah écoutez, vous m'avez présenté à 43 ans, c'est gentil, j'en ai 45 quand même, je tangente vers 46, donc bon, peut-être que va arriver le temps de la maturité, de la majorité politique.
Lionel Royer-Perrault, merci.
Merci à vous.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.